vino verde por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. Solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Las altas de Burgos, andamola sublevado, andamola sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado, cuando llegue el tren blindado. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola se va a paseo, y mola se va a paseo. En el tren blindado, camino de Andalucía, camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía, al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo.
Voilà, on est déjà dans l'ambiance avec El Comunero et El Tren Blindado. On va tout de suite rentrer dans le dossier de notre émission et on va entendre donc une interview de Maëlle Maugendre. Maëlle Maugendre qui est doctorante en histoire et elle va nous parler plus particulièrement du sujet qui a fait l'objet de sa maîtrise, qui est de l'exode à l'exil, l'internement des républicains espagnols au camp du Vernet d'Ariège, donc de février à septembre 1939. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis demandé un petit peu comment elle en était venue à s'intéresser à ce sujet.
Donc moi j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire espagnole tôt en fait, pas forcément volontairement, disons que mes parents avaient des copains qui se sont pas mal investis dans la lutte antifranquiste dans les années 70, plutôt de la mouvance libertaire on va dire. Et du coup, en fait, j'ai eu l'occasion de voir ses amis en fait passer chez mes parents allaient chez eux, plutôt quand j'étais vraiment gamine, du coup, et qui racontaient un peu toute cette histoire. Et je m'y suis intéressée parce que justement, au lycée, tout ça, on nous parlait pas beaucoup de Franco, de l'Espagne, enfin, d'autant plus à Nantes, parce que moi, j'ai fait toute ma scolarité à Nantes, et c'est vrai qu'autant à Toulouse, les gens, c'est quand même, l'histoire est assez proche, autant ici, autant à Nantes, pas du tout. C'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser, d'autant plus en voyant qu'il n'y avait pas grand-chose, enfin, on ne disait pas grand-chose là-dessus, donc j'ai interrogé mes parents, qui ne m'ont pas dit grand-chose non plus. Et du coup, je pense que j'ai voulu un peu m'orienter vers des études d'histoire aussi par rapport à ça, et plus globalement, par rapport à l'intérêt pour l'histoire. Et du coup, je ne savais pas si j'avais envie de continuer en recherche, mais ça m'a donné envie, en fait, justement d'en profiter pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette histoire espagnole. Après, c'était très vaste. Disons que je me sentais pas capable de travailler sur l'histoire de la lutte antifranquiste parce que c'était un peu trop proche familialement et je me suis dit que j'aurais pas du tout le recul nécessaire pour le faire. Après, la guerre d'Espagne m'a du coup beaucoup intéressée aussi parce que forcément c'était lié, mais je me suis renseignée assez vite. Je me suis rendu compte que d'une part, il y avait déjà beaucoup de choses de faites dessus et que c'était vraiment sur... il y avait beaucoup de choses sur l'histoire, l'histoire, disons, militaire, entre guillemets, m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'en suis venue à la question de l'exil, à la question des camps, en lisant quelques... Enfin, j'ai surtout, par exemple, j'ai assisté à une conférence de Denis Péchanski, qui est un des historiens donc, qui a bossé sur la France des camps, et qui m'a donné envie de m'intéresser à cette question, du coup, qui était encore moins connue, parce qu'autant les camps étaient tous dans le sud-ouest de la France, autant à Nantes, n'y a rien. Enfin, et on n'en a jamais entendu parler des camps de concentration. En France, c'est pour les Juifs. Les Espagnols n'ont jamais été là-dedans. Donc, j'ai commencé à potasser 2-3 bouquins. Et après, je suis partie visiter, en fait, entre guillemets, un camp, un des camps qui reste encore bien en place, c'est le camp de Rivesaltes, mm-hmm. parce qu'il y a eu les harkis donc, qui se sont fait interner par la suite, donc les structures en béton, en plus c'est un camp militaire, c'est une zone militaire, donc elle n'a pas été restituée par la suite aux particuliers et tout. Et j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, enfin, je pense que ce n'est pas particulièrement autorisé, mais bon, c'est pas compliqué d'aller s'y balader, et disons que je pense que ça m'a vraiment fait bizarre de voir ça. Autant j'ai jamais été à Auschwitz ni dans tous les camps, mais tu vois des images et tout. Autant là, c'était l'endroit est complètement désertique, t'as des éoliennes au fond et t'as des baraquements à perte de vue. C'est hyper impressionnant. Et en fait, je me suis rendu compte de tout l'intérêt de travailler là-dessus en revenant après sur Nantes, en parlant à des amis, enfin à plein de gens en fait qui ne connaissaient pas du tout cette histoire. Donc je me suis dit bon ben bingo, ça pourrait être pas mal quoi pour un master recherche. Donc du coup je suis descendue à Bordeaux parce que voilà c'était plus près du sud et puis c'était quand même pas trop loin de Nantes. Mmh. Et donc là j'ai trouvé un prof qui était d'accord pour que je m'intéresse à ce sujet et du coup j'ai cherché parce que bon travailler sur tous les camps c'était beaucoup trop vaste pour un sujet de recherche de 2 ans. Je me suis renseignée sur quel type de camps il y avait sur lesquels je pouvais travailler. Et donc, quand tu lis quelques bouquins, les quelques bouquins qui sont écrits là-dessus, tu vois qu'il y a des camps dont on parle beaucoup plus, qu'on fait l'objet d'une étude à part entière, comme Gurs, comme tous les camps déjà du Roussillon, on en parle plus, Argelès, le Barcarès et tout. Autant le Vernet, il y avait peu de choses et visiblement beaucoup d'archives. Et le fait qu'en plus, au Vernet, la particularité de ce camp, c'est qu'il y a toute la division d'Ourouti, qui est la 26e division qui s'est fait interner là-bas, en fait, je me suis dit que bon, c'était a priori des anarches, que ça me dérangeait pas du tout de travailler sur ce type de population, donc je me suis dit que voilà, j'avais bien envie de bosser sur le Vernet. Donc voilà, je me suis intéressée à ce camp-là, en fait, et après, j'ai été aux archives. Au début, on m'a dit qu'il n'y aurait pas grand-chose, parce que c'est un camp qui a servi pour surtout jusqu'à 1944, en fait, voire un petit peu après. Et du coup, les Espagnols, ils ont été internés que 7 mois. Le camp a été fermé après administrativement. Et quelques jours après, il a réouvert, mais pour un autre type de population, dont des Espagnols. Mmh. Et du coup, moi, je ne savais pas s'il fallait que je travaille sur tout le camp en entier ou sur uniquement le camp d'Espagnols. Au final, j'ai travaillé que sur le camp d'Espagnols, parce qu'il y avait déjà une bonne centaine de cartons au final. Donc, ça faisait déjà pas mal à dépouiller. Et puis après, c'est vrai que je pense que la richesse de l'histoire du camp du Vernet, ça mériterait presque un travail de thèse, à mon avis. Ça peut... camp du Vernet, à la base, donc les républicains espagnols arrivent, disons qu'il y a la chute de la Catalogne, Barcelone tombe aux mains des franquistes fin janvier 1939. À ce moment-là, il y a une grosse arrivée de population, donc civile comme militaire, mais avant tout civile sur la frontière franco-espagnole. Il y a différents plans qui étaient plus ou moins prévus par le gouvernement, mais plus, disons que l'idée c'était il risque d'y avoir du monde qui va arriver, mais on va faire comme s'il n'y en a pas parce que ça sert à rien de les appeler, de leur montrer qu'on les attend. Donc il y a quand même des plans de prévus, notamment pour les civils, hein, dès 37 de rapatriement dans les départements du centre et de l'ouest de la France, mais disons que l'idée c'est si on peut éviter d'ouvrir la frontière, c'est pas plus mal. Je pense qu'ils pensaient aussi qu'ils allaient tenir plus longtemps. C'est vrai que même le gouvernement républicain espagnol disait non, mais on va tenir. Donc bon, je pense qu'il y a eu de l'impréparation française qui était voulue et d'autres qui n'étaient pas forcément, c'était pas forcément un choix. Mais disons qu'ils ont attendu pas mal de temps avant d'ouvrir la frontière. Le 28 janvier, ils ouvrent la frontière aux civils et à partir du 5, ils ouvrent la frontière aux militaires. Donc là, ça fait... Il y a énormément de personnes qui sont passées en quelques jours, plusieurs centaines de milliers. Et en fait, au début, si tu veux, ils ont séparé les civils et les militaires. dans des centres de triage juste à la frontière, donc dans différentes zones, ça dépendait où est-ce qu'ils passaient, en fait, s'ils passaient en Cerdagne, s'ils passaient au Pertus. Donc voilà, et après ils les envoyaient dans des premiers gros camps, donc notamment les camps du Roussillon, qui ont été à Argelès, le Barcarès et ensuite Saint-Cyprien. La division d'Urruti, qui est la majorité des internés du camp du Vernet, elle, c'est une des dernières à avoir passé la frontière, le 18 février, parce qu'ils ferment la frontière entre le 10 et le 11. À partir de là, ça devient beaucoup plus difficile de passer la frontière, donc c'est une des dernières. Ils sont internés dans les camps de triage de Bourg-Madame, à la Tour de Carole, en Cerdagne, et rapidement, il y a une partie, parce que la division, elle est constituée de trois brigades, la 119e, la 120e et la 121e. Très rapidement, il y en a priori au moins deux brigades, mais ça, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas trouvé de traces sur les archives. Moi, j'ai toujours pas réussi à être sûre de moi là-dessus. Il y a une partie de la division qui est envoyée au fort de Montlouis, qui est une citadelle Vauban, en fait, à Montlouis, donc pas loin de la Tour de Carole, et qui est ensuite envoyée au camp, et une autre brigade qui est envoyée directement, elle, au camp du Vernet. Donc bref, toujours est-il qu'ils se retrouvent au camp du Vernet entre le 15 et le 28 février, pour le coup, au camp du Vernet, donc l'intégralité de la division d'Urruti. À peu près 9000 personnes, et d'autres Espagnols aussi, c'est-à-dire ceux qui se sont repliés en même temps, parce que c'était quand même, je pense, c'était un peu la pagaille, donc ceux qui se sont repliés en même temps qu'eux, et qui étaient sur les mêmes lieux, sur les mêmes centres de triage, en fait. Donc au final, il y a eu quand même, au plus haut des moments du camp, il y a eu 14 000 internés, donc ça voulait dire toute la division plus d'autres. Et ce qui fait la particularité du camp, en fait, c'est que c'est l'intégralité de la division qui a été internée, alors que le but des autorités françaises, à la base, c'était de diviser, pour éviter qu'il y ait toutes les anciennes sympathies qui se recréent. Et la division de Routier a échappé à ça, ce qui est étonnant, parce que c'était considéré comme étant la plus dangereuse politiquement, hein, pas forcément à raison, mais en tout cas, de Routier était très connu en France, ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et donc on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai pas réussi à trouver d'explication officielle disant que c'était qu'ils étaient tous internés au Vernet. Moi, je penche pour le fait qu'à mon avis, ils sont passés en dernier à la frontière et ils sont passés quand même relativement groupés, donc ça peut expliquer ça. D'autres historiens l'expliquent en disant que le camp du Vernet a tout de suite pris un visage répressif, de camp disciplinaire en fait par rapport aux autres. Et du coup, ils auraient interné en particulier la division d'Urruti. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, par rapport aux recherches que j'ai trouvées, en fait, il se trouve que le Vernet, ça fait partie d'un réseau de six camps, de six plus petits camps, avec Agde, Bram, Sept-Fonds, Rieucros. Donc, il y a six petits camps avec le Vernet qui sont créés pour décharger un peu les camps du Roussillon. C'était l'idée. Et chacun devait avoir une orientation particulière, donc certains vont accueillir les brigades internationales, d'autres les ouvriers spécialisés. Moi, je sais qu'au Vernet, qui devait accueillir aussi les ouvriers spécialisés en même temps que cette fonds, il n'y a jamais eu vraiment cette orientation. Donc est-ce que sur le papier c'était ça et au final ça s'est jamais retrouvé comme ça? Je ne sais pas exactement pour les autres camps, mais je sais qu'au Vernet, il n'y a pas eu plus d'ouvriers spécialisés. La majeure partie des internés étaient des agriculteurs de toute façon, donc ils n'étaient pas plus spécialisés qu'autre chose. Et en fait, moi je penche pour dire que le camp du Vernet n'était pas plus disciplinaire que les autres, contrairement, parce qu'au niveau des archives, il n'y a rien qui montre. En fait, l'histoire du camp, il va devenir disciplinaire à partir d'octobre, très clairement, où là, les Espagnols qui restent sont envoyés dans les autres camps, notamment à Sept-Fonds. Et on interne au Vernet tous les étrangers considérés comme dangereux pour la défense nationale. Donc tous les communistes, ça peut aller des Russes blancs aux communistes, c'est vraiment tout type de personnes. Et là, du coup, le camp, il devient vraiment difficile. On interne Kostler, notamment Arthur Kostler, qui a écrit tout un livre sur le Vernet et qui montre bien les conditions extrêmement difficiles du camp. Et on réinterne aussi des Espagnols qui étaient déjà là avant, mais qui ont été considérés, notamment le Ricardo Sanz, qui était le dirigeant de la division d'Urruti après la mort de Durruti, lui a été réinterné après avec d'autres Espagnols au camp du Vernet, qui là est devenu disciplinaire. Mais sinon, avant, de février à septembre 39, au moment où les Espagnols sont internés, c'est un camp de concentration qui est très dur, hein, par la manière dont ils vivent là-bas, mais il n'y a pas plus de répression dans ce camp-là que dans les autres. Parce qu'il y avait notamment le fort de Collioure, qui était considéré là comme une espèce de prison, en fait, où moi, il y a des documents des chefs de camp qui disent 35 internés qui se sont fait remarquer par leurs idées extrémistes sont envoyés au fort de Collioure pour peine disciplinaire, en fait. Donc tous les éléments considérés comme dangereux, en fait, étaient renvoyés dans les autres camps, ce qui me fait dire que le Vernet n'était pas plus disciplinaire que les autres. Après, ça n'enlève en rien la difficulté. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire ça, notamment à, dans 5 internés, mais c'est pas tant les internés, mais les, tous les porteurs de mémoire, en fait, de cette histoire très difficile de l'exil, en fait, qui considèrent que le camp du Vernet était très dur. Et quand tu leur dis qu'il n'était pas forcément plus disciplinaire, t'as l'impression qu'on va amoindrir la réalité, alors que c'est pas du tout la question. La question, c'était juste de savoir utiliser les bons termes, parce qu'il devient vraiment après. Mmh. Et il est d'autant plus dur à ce moment-là, quoi. Parce que je pense que ce qui est important moi, j'ai trouvé dans ma recherche, c'était de réussir à définir vraiment la nature de l'internement. C'est comme pourquoi on a interné ces Espagnols, pour quelles raisons et comment le gouvernement s'en est défendu, comment il a pu expliquer cet internement. Et autant, je pense qu'il y a le gouvernement d'Aladier, très clairement, en 1939, est gouverné par une logique de police. L'idée, c'est y a la sécurité nationale, y a des Rouges qui débarquent en France, ils sont 450 000, y a plein d'anciens soldats. C'est une période relativement de crise économique, c'est pas possible de les mettre tout de suite dans l'économie nationale. Donc très clairement, on les interne, on les concentre dans des camps. Le but, c'est pas de les faire mourir. Enfin, ceci dit, après, ils arrivent là-bas, y a rien. Mais le but, c'est pas de les faire mourir, mais en attendant, c'est pas non plus d'y faire très attention. Ils sont pas ultra bien traités, ça vient au fur et à mesure. Ça montre, je pense, l'imprévision totale du gouvernement et le fait qu'ils ont essayé de se rattraper au fur et à mesure, mais très clairement, au début, c'était le bordel et c'était vraiment des conditions de vie difficiles. Mais c'était pas une volonté... Enfin, on peut pas parler de volonté d'extermination, comme ça a conduit les autres, très clairement. Et autant le camp du Vernet, en octobre 39, à partir du déclenchement de la guerre, là, il est répressif. Et là, très clairement, il y a une volonté de supprimer des personnes, éventuellement. Je veux dire, c'est des personnes qui sont... Moi, j'ai pas complètement étudié cette période-là, donc on les tue pas. Mais les conditions sont tellement dures que, voilà, le but, c'est qu'ils en sortent pas forcément. Pour les Espagnols, c'est pas la même chose. On les parque dans des endroits où ils ne peuvent pas sortir parce qu'on a peur que la population... Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de surveiller une population qui est dangereuse politiquement. Mm-hmm. C'est pas de les tuer. Ceci dit, les Espagnols, bon, pour parler du camp du Vernet, ils arrivent au Vernet. Il y a une vingtaine de baraques encore debout, parce que c'est un camp qui a été construit à la base, à la fin de la Première Guerre mondiale, pour accueillir des régiments de tirailleurs sénégalais. Bon, ça n'a jamais abouti, donc ça s'est transformé en dépôt d'artillerie.
Comme caserne, tu veux dire, au départ ?
Oui, et comme camp d'entraînement, en fait, pour tous les régiments d'Afrique du Nord. Et donc ça n'a jamais abouti, notamment pour des raisons climatologiques et tout ça. Donc ça s'est transformé en entrepôt militaire qui n'a jamais été vraiment entretenu, disons. Donc les Espagnols arrivent visiblement plus vite que prévu, en plus, sur le camp. Donc il y a 9000 personnes qui débarquent sur un camp où il y a 20 baraques, dont 7 dans un état assez catastrophique, dont 7 sont réservées aux troupes de garde. Mmh. Donc ils ont 13 baraques pour eux, pour je ne sais pas combien de milliers de personnes. Donc ils sont pleins pendant des semaines à dormir dehors, sachant que voilà, ils ont quand même traversé la frontière à pied. Ça fait 2 ans et demi qu'ils combattent dans des conditions hyper difficiles, très clairement. Il y en a plein qui sont morts. Alors la difficulté, c'est que forcément au début, les autorités du camp n'ont pas noté tous les décès. Donc on ne sait pas combien exactement il y a eu de morts, mais très clairement, même si c'est pas si la mort n'est pas voulue, elle est très présente dans les premières semaines, parce qu'ils sont épuisés, parce que les conditions, il n'y a pas à bouffer ou très peu, il n'y a pas de conditions sanitaires décentes. Donc très clairement, c'est quand même des conditions inadmissibles, quoi. Et bon, rapidement, tu vois toutes les autorités militaires et civiles qui se mettent d'accord, en fait, pour faire quelque chose pour ces Espagnols. Donc du coup, ils font appel à des entreprises du coin très rapidement pour mettre en place des baraquements. Donc ça se construit quand même assez vite. Et ça se construit. Et donc tu sens qu'il y a une vraie volonté quand même de limiter ces conditions difficiles. Parce que même au fur et à mesure, il y a un comité de soutien aux républicains espagnols qui est monté. Le président, c'est le préfet de l'Ariège. Mmh. Au fur et à mesure, ils acceptent de faire construire des terrains de basket, de les emmener au cinéma, faire des projections, tu vois, les emmener se baigner dans la petite rivière à côté et tout. Donc le but, tu vois, ils améliorent quand même au fur et à mesure les conditions, mais ils suppriment pas l'internement. Donc c'est vraiment toujours à double tranchant, c'est-à-dire... on va vous laisser dans les camps, mais finalement vous y êtes pas si mal. J'ai toujours pensé que c'était notamment pour pouvoir faire face à leurs détracteurs, à toutes les associations de droits de l'homme et toutes les associations, les partis politiques de gauche qui étaient là. Mais c'est absolument inadmissible, parce qu'il y en a eu plein qui se sont créés en disant on peut pas laisser les Espagnols dans des camps comme ça, c'est pas humain, c'est pas possible. Mmh. Et donc je pense que le gouvernement a voulu aussi se dédouaner en disant oui, non mais regardez, c'est pas des camps où on veut les tuer, l'idée c'est de... on les surveille, mais ils sont bien. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence, il y a eu plein d'améliorations, mais t'enlèves quand même pas le fait que c'est des personnes qui ont tout perdu, qui sont surveillées, qui n'ont aucune liberté, aucune nouvelle de leur famille, qui n'ont pas de possibilité de les rejoindre, qui n'ont pas forcément d'obligation, moi, de ce qu'en est ressorti dans la vie du camp, d'obligation disciplinaire, il n'y a pas visiblement grand-chose. Ils n'ont pas de... Forcément, oui, ils n'ont pas... Il y a quelques levées de drapeaux où des fois, ils se mettent en rang pour compter les gens dans les baraques, mais il n'y a pas de défilé, forcément, tu vois. La vie n'est pas régie comme ça, ce n'est pas extrêmement militaire. Mais ceci dit, il y a des peines de prison, dès qu'ils parlent un peu politique, il y a une surveillance pas possible qui est et militaire et civile. C'est-à-dire que tu as des inspecteurs spéciaux qui viennent voir s'il y a des tracts qui circulent dans le camp. Moi, les internés que j'ai interrogés, à chaque fois, ils étaient obligés de faire des systèmes pas possibles. Ils se mettaient en groupe, ils se mettaient à parler foot. Et cyclisme, par exemple, et dès qu'il y avait un garde qui s'éloignait, il commençait à mot couvert à parler de politique, parce que je pense que c'est vraiment ce qui les a tenus dans cet internement, c'est d'imaginer qu'ils pourraient continuer à renverser Franco, ça a toujours été ça, imaginer que ça allait pas s'arrêter là, qu'ils allaient forcément sortir de ce camp, je dois dire que ça a été des conditions difficiles, que le gouvernement a essayé petit à petit d'améliorer, mais je pense que la dureté inhérente des camps de concentration, c'est, voilà, ils étaient enfermés et privés de liberté, et ça c'était ça, je pense, le plus dur pour eux, très clairement.
Negras tormentas agitan los aires. Nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos manda el deber del bien más preciado. Es la línea.
Voilà, on est toujours en compagnie de Maëlle Maugendre dans Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel et on parle du camp du Vernet en Ariège qui a donc de février à septembre 1939 servi de camp d'internement pour des républicains espagnols qui fuyaient donc le franquisme triomphant. Et donc on repart avec Maëlle. Je me suis demandé mais qui était interné dans ces camps?
Donc c'était des hommes et des femmes et des enfants ou seulement...
En fait, les femmes étaient... les femmes et les enfants, en fait, les civils ont été séparés des militaires. Donc il y a eu les camps de concentration vraiment en tant que tels, c'est-à-dire les trois camps du Roussillon, Barcarès, Argelès, Saint-Cyprien, les six petits camps, le réseau de six petits camps autour, ça a été des camps uniquement pour les militaires espagnols, pour les hommes. Après, bon, en l'occurrence, moi, j'ai retrouvé, il y avait quelques femmes dans le camp, tu vois, qui avaient le costume de miliciens, donc ils ne se sont pas fait repérer tout de suite, mais c'était exclusivement les hommes, parce que les femmes étaient envoyées plutôt dans des centres d'hébergement, en fait. L'idée, c'est qu'il y avait eu tout un plan pour les civils, et donc il y avait plein de communes qui étaient prévues, alors en Bretagne, dans le sud aussi, mais l'idée, c'était de les éloigner de la frontière espagnole, et notamment dans le centre, où ils étaient envoyés dans des communes. Alors, soit elles logeaient dans des prisons désaffectées, soit, à l'inverse, elles étaient bien reçues dans des maisons, tu vois, ou dans des anciennes usines. Ça dépendait un peu, je pense. Je suis en train de travailler dessus cette année, justement, et je ne sais pas encore trop, mais ça dépendait, je pense, de la couleur politique aussi de la mairie, tu vois, qui a décidé de les accueillir plus ou moins bien. Donc c'était... Il y a eu des départements où il y avait plus d'une centaine de centres d'hébergement, tu vois, et il y a eu plus de 77 départements qui ont été mis à profit, en fait, par le gouvernement pour s'occuper des femmes et des enfants. Mmh. Après, je sais qu'à Argelès... à Gurs, à Rivesaltes, après, je suis pas sûre des périodes, parce que je connais pas encore trop cette histoire, mais je sais que les femmes ont aussi été internées dans certains camps, enfin, notamment sur les plages du Roussillon, au début, elles étaient là, mais l'idée, c'était quand même de les envoyer dans des centres d'hébergement un maximum, je pense. Mmh. Donc, vu que c'était complètement la foire quand ils sont arrivés, je pense qu'ils ont fait au plus simple, voilà, les femmes qui pouvaient envoyer, ils les envoyaient, après ça... Je ne sais pas si il y en a qui ont fini dans les camps. Et notamment un camp en Rieucros, un camp en Lozère, qui lui a été utilisé comme camp disciplinaire pour femmes cette fois-ci. Et pareil, qui était un peu l'équivalent du Vernet pour les hommes quand il est devenu disciplinaire, où là il y avait des Allemandes, antifascistes, il y avait donc des Espagnols qui se sont retrouvés là-bas. Et ça, c'était un camp vraiment dur pour femmes. Mais sinon, c'était des centres d'hébergement. Donc là, je ne sais pas trop quelles conditions elles avaient.
Parce que il y avait quand même des femmes engagées militairement pendant la guerre d'Espagne.
Oui, tout à fait. Alors elles, je sais pas comment elles ont été considérées. Ça, je sais pas encore. Je sais pas.
Et ça veut dire aussi qu'ils ont séparé des familles alors.
Ah, tout à fait. Ah, ça, c'était là. Je pense que ça a été une des grandes douleurs des Espagnols, c'est-à-dire que les femmes. Et alors, non seulement ils ont séparé des familles, mais aussi des enfants et des mères. Bon, je dis pas que les pères, tu vois, n'avaient pas plus de chagrin d'être séparés de leurs enfants, mais disons qu'on mettait les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre. Et après, des fois, on séparait aussi. Il y a des enfants qui se sont perdus. On les séparait pas volontairement, mais après, il y en a qui se sont perdus, qui ont été envoyés. Et il y a eu donc énormément d'associations, de journaux, et notamment la Croix-Rouge après, qui se sont chargés, en fait, de créer des listes de contact, c'est-à-dire de faire paraître dans les journaux un tel est à tel endroit et cherche machin à tel camp et tout. Donc il y avait, ça c'était hyper important pour les internés parce qu'ils avaient quand même la possibilité de lire des journaux, de lire, il y avait des entrées, bon, les journaux qui étaient contrôlés, c'est-à-dire que le Midi Socialiste par exemple, il a été dans le camp deux, trois fois et puis rapidement le gouvernement a dit non finalement, enfin c'était pas le gouvernement d'ailleurs, c'était plus je pense le chef du camp. Enfin, disons le général Ménard, qui était le général qui était au-dessus, en fait, de toute la région militaire de Toulouse, donc des camps de Sept-Fonds et du Vernet, qui a dit non, donc c'est les journaux modérés qui avaient droit de citer, très clairement. Mmh. Et dans ces journaux-là, il y avait pas mal de listes, en fait. Donc ils avaient la possibilité, s'ils avaient un peu d'argent, de s'écrire, en fait. Mais il y en a qui ont mis 2-3 ans avant de se retrouver. Et d'autres qui se sont retrouvés, par exemple, là, je suis en train de lire un livre... Et du coup, c'est un Espagnol qui raconte que lui a été à Argelès, qu'il s'est séparé de sa femme et qu'ils ont fini par se retrouver au Mexique. Parce que donc, le Mexique est un des seuls pays qui a donné la possibilité en grand nombre, plusieurs milliers d'Espagnols, de trouver refuge dans son pays, en fait, un refuge diplomatique. Donc du coup, il y a eu pas mal d'Espagnols, très peu en réalité par rapport à ce qu'ils voulaient, mais il y a eu pas mal d'Espagnols qui se sont retrouvés là-bas, qui ont eu cette possibilité de se retrouver. Mais c'est vrai que les femmes et les enfants... et les hommes étaient séparés, donc ça a été, je pense, très difficile d'être sans nouvelles, de savoir. Et puis, en plus, les hommes étaient envoyés sur le front, donc c'est pareil, ils ne savaient pas non plus si la famille était restée en Espagne, s'ils avaient fui ou pas, notamment pour les Catalans, quand la Catalogne est tombée. La question, c'était, est-ce que la famille est partie? Est-ce qu'ils ont bien vécu l'exil? Ou est-ce qu'ils se retrouvent? C'était assez compliqué.
Et donc, c'était géré par l'armée française, ces camps-là?
Ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'est géré par l'armée française. C'est... le général Ménard, qui est... Oui, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, parce que c'était le général Noël qui gère les camps de Vernet de cette fois. Et le général Ménard, en fait, a été chargé par le gouvernement, au moment de la retirada, donc de l'exil des militaires, de gérer toute la charge des militaires. En fait, donc, c'est lui qui a décidé de créer les camps. Il a créé des commissions pour trouver des lieux d'hébergement. Le Vernet, il a été trouvé par une commission de recherche, justement, de camps. Et donc, c'était les autorités militaires qui avaient en charge la garde. C'était des troupes de GRM, de garde républicaine mobile, qui étaient autour. Des tirailleurs sénégalais, notamment, au début aussi. Des spahis. Et donc, c'était vraiment les militaires qui s'occupaient de tout ce qui était logistique, en fait. C'était souvent des camps militaires, d'ailleurs. Par exemple, Rivesaltes, c'était souvent des réquisitions militaires, le Vernet. Donc, c'était les militaires qui avaient ça en charge. Et après, c'était les préfets qui avaient aussi, disons que les responsabilités étaient partagées. Les autorités civiles dans le camp du Vernet avaient aussi droit de cité, c'est-à-dire qu'elles envoyaient des inspecteurs pour donc créer des fiches. Ils ont fiché tous les Espagnols, en fait, pour les surveiller. Donc il y avait des fiches, des inspecteurs qui venaient spécialement créer des fiches de tous les républicains espagnols internés dans les camps. Il y avait des inspecteurs spéciaux qui étaient là donc pour surveiller la vie dans les camps, exactement, qui dès qu'il y avait un incident référaient à un commissaire spécial, et ensuite qui référaient au ministère de l'Intérieur, à la sûreté. Donc à chaque fois il y avait un partage, et c'est pareil, disons que le préfet avait des fonds financiers débloqués par le gouvernement pour venir en aide aux républicains espagnols. Donc tu avais un fonds spécial, en fait, qui était créé pour les républicains espagnols. Et donc les militaires s'occupaient de la construction, par exemple, des baraquements sur les camps militaires. Et pour le camp du Vernet, on voit bien, parce qu'il y a... En fait, il y a eu réquisition de terres sur des parcelles agricoles de civils. Et donc, en fait, les militaires s'occupaient de la construction et payaient la construction du camp militaire en lui-même, donc les anciennes baraques qui étaient déjà, et le préfet lui a payé la construction des baraques qui étaient réquisitionnées sur les terres civiles, en fait. Donc à chaque fois, c'était par exemple, on voit dans les documents quand ils construisent, ils font construire un foyer, une bibliothèque et une école, et donc les frais sont partagés, je sais plus hein, exactement, mais je sais que le préfet prend en charge soit la bibliothèque, soit l'école, et les militaires prennent en charge soit, donc les frais sont partagés à ce niveau-là. Mais globalement, c'est les militaires qui ont encadré l'internement des camps, quoi.
Et donc, en moyenne, combien de temps on restait dans ces camps-là?
Alors, le camp du Vernet, ils ne sont pas restés extrêmement longtemps, parce que ils sont... disons qu'en fait, la politique du gouvernement, ça a été... on essaye d'en rapatrier un maximum, ce qui a été le cas. C'est-à-dire la majorité des internés du Vernet, hein, même si ce n'est pas forcément très entendu, mais disons que la majorité... Parce que bon, l'idée, c'est que c'est des républicains espagnols plutôt des anarchistes, donc ils ont tout à craindre à revenir en Espagne. Sauf que la majorité est quand même revenue pour différentes raisons, ce qui, je pense, s'explique très bien, s'ils ont laissé leur famille là-bas, ou si, je veux dire, t'arrives en France, t'es interné dans les camps, bon, t'as rien à... Si, t'as tout à perdre à rentrer en Espagne, mais disons que t'as... Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, au Vernet, si tu veux, ils ont essayé de rapatrier un maximum de personnes, sauf que de toute façon, le gouvernement de Burgos, donc Franco, a refusé de laisser les républicains revenir, à tort, parce que, enfin, internationalement, t'as pas le droit d'empêcher les nationaux de revenir sur leur territoire, mais disons que l'idée, c'était, vu que les républicains étaient partis avec l'or de la Banque d'Espagne, Franco... a fait comprendre par voie diplomatique, hein, en gros, moi je ferme mes frontières tant que j'ai pas récupéré l'or. Donc voilà, là il y a eu plein de tractations et il y a eu des accords qui s'appellent les accords Béjar-Jordana, qui ont été donc, où en gros, pour faire simple, hein, la France s'écrase un peu en disant, bon, bah, de toute façon on veut pas les garder sur notre sol, donc ils acceptent de rendre l'or. Ce qui pose quand même problème au moment où Franco s'investit aux côtés d'Hitler. Donc là, ça commence à poser sérieusement problème. Mais au final, ils vont récupérer tout l'or, tout le matériel. À partir du moment où Franco récupère tout l'or, donc plutôt vers mars-avril, il laisse les frontières ouvertes. 39. Mais avant, si tu veux, ça a été vraiment difficile. Et d'autant plus qu'il y a eu une loi qui est passée, la loi des responsabilités politiques, où en gros, Franco dit toutes les personnes qui ont participé au mouvement de la République depuis 31 et toutes les personnes qui ont participé au soulèvement, enfin, qui ont fait partie du Front populaire à partir de 36, sont passibles de peine de mort, de peine. Donc à partir de là, si tu veux, il y a des séances de débat à l'Assemblée nationale, et bon, t'as tous les partisans de gauche qui sont là, c'est hors de question qu'on renvoie les Espagnols, enfin on les renvoie à la mort. Et en l'occurrence, Édouard Daladier dit ok, enfin il affirme qu'il n'y aura pas de renvoi qui seront faits de force dorénavant, ce qui peut laisser entendre qu'en tout cas au mois de février, les renvois, c'était, on leur laissait pas forcément le choix, donc ça c'est possible. Mais ceci dit, il n'y a aucun renvoi de force, aucun rapatriement de force qui est fait à partir de mars, et d'autant plus qu'au fur et à mesure, le gouvernement donc de Daladier commence à se rendre compte qu'il y a un conflit européen qui se prépare, qu'il va falloir faire les appels sous les drapeaux, donc les campagnes vont être complètement dépeuplées, l'économie de guerre aussi. Donc l'idée, c'est au fur et à mesure d'introduire les Espagnols dans l'économie de guerre en se disant qu'ils vont pouvoir nous servir à quelque chose. Et ça, c'est un décret qui date d'avril 1939, où du coup, on constitue des compagnies de travailleurs espagnols, et l'idée, c'est de les envoyer sous surveillance, travailler donc pour différentes industries, et il y a plus de 70 compagnies qui sont créées, de 250 hommes chacun, donc ça vide quand même pas mal les camps. Ça, c'est la deuxième raison qui vide vraiment les camps de républicains à partir d'avril, et qui les envoie donc pour pas mal de temps. Il y en a qui se retrouvent donc pris dans les zones de guerre, d'autres pas, mais disons qu'il y a plein de compagnies qui sont créées avec des qui sont pas forcément tous payés, rémunérés un peu. Ça, c'était compliqué parce que, pareil, j'ai pas trouvé exactement de documents clairs donnant la rémunération, mais disons qu'ils étaient donc intégrés dans l'armée française et disons qu'ils avaient pas des conditions extrêmement bonnes non plus. Après, parce qu'ils étaient internés donc dans des casernes, ils étaient surveillés, voilà, ils pouvaient pas forcément faire ce qu'ils voulaient, mais ils avaient la possibilité éventuellement, s'ils en sortaient après, de trouver un travail, pourquoi pas, et de faire venir de pouvoir faire le regroupement familial. Donc l'idée, c'était quand même, de toute façon, quand t'as passé 6 mois dans un camp avec que des barbelés comme champ d'horizon, voilà, c'était une possibilité de sortie. Donc, donc au fur et à mesure, les camps se vident. Donc le camp du Vernel, lui, il ferme ses portes le 23 septembre 1939. Les quelques centaines d'Espagnols qui restent sont envoyés au camp de Sept-Fonds. Donc il y a des camps qui sont ouverts plus longtemps. Il y a des camps qui sont ouverts de 3 ans, hein, qui restent beaucoup. Les Espagnols, ils restent pas tous parce qu'il y a quand même y a des possibilités de changer de camp quand tu fais la demande, en fonction de ce que les autorités attendent. Mais disons, tout le monde ne reste pas quand un camp reste ouvert 3 ans. Les Espagnols ne sont pas tous 3 ans dedans. Mais ceci dit, il y a des camps qui restent ouverts jusqu'à 42-43. Donc.
Je m'apprendis de carretilla de toda vez. Et claro, ya me mandó de quitar los periódicos.
Que los pobres coman pan y los ricos mierda. que la tortilla se mueva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se mueva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Que la tortilla se vuelva, c'est-à-dire que la tortilla se retourne. C'est un peu une belle image, moi, je trouve, pour la Révolution. J'aime bien. C'était El Comunero. Donc, on est toujours dans les oreilles loin du front et on est toujours en compagnie de Maëlle Maugendre qui nous parle du camp d'internement des républicains espagnols du Vernet en Ariège, surtout sur la période donc, de février à septembre 1939. On l'écoute, on continue de l'écouter.
Comment ça se passe dans ces camps qui restent ouverts jusqu'à 42-43? Comment ça se passe pendant le gouvernement de Pétain?
Alors ça, je ne sais pas exactement. Parce que moi, du coup, sous le gouvernement de Pétain, vu que le camp du Vernet a fermé, moi, j'ai plus travaillé sur la partie de la résistance, en fait, après comment elles sont. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement fondamental, à part peut-être des risques de rapatriement forcé, mais je ne sais pas quelle est la politique, quelle était la... Ouais. Il y en a eu, il y a des Espagnols qui ont fini déportés, ça très clairement, il y a eu plus de 8000 Espagnols qui ont fini déportés dans les camps. Ils venaient du camp, ils venaient de certains camps de concentration, oui, après il y en a d'autres qui étaient récupérés dans la résistance, qui étaient déportés, donc je ne sais pas s'il y a eu une politique vraiment de déportation des camps français aux camps nazis, j'imagine, mais moi j'ai très peu travaillé sur la politique pétainiste en fait, donc j'aurais peur de dire des...
Mais donc beaucoup vont s'engager aussi dans la résistance.
C'est ça, disons que, alors beaucoup, disons que parmi ceux qui restent, au final en France, qui ne sont ni rapatriés, donc en Espagne, ni qui ont la possibilité de réémigrer dans d'autres pays, comme la Russie, comme le Mexique surtout, parce que c'est essentiellement Mexique et Chili. Disons que eux sont donc parmi les en fait les compagnies de travailleurs étrangers, c'était quand même souvent, ils étaient dans des endroits assez isolés, par exemple il y avait pas mal de chantiers de coupage de bois, et donc il y a certaines compagnies qui se sont transformées, donc sous Pétain c'est devenu des groupements de travailleurs étrangers, il y a pas eu que des Espagnols, mais c'était quand même majoritairement des Espagnols, et en fait au fur et à mesure ils ont été quand même relativement donc dans des lieux isolés, et il y a pas mal de maquis qui se sont constitués à partir de ces noyaux là en fait de groupements de travailleurs. Parce que la surveillance était très légère et je sais par exemple qu'il y a eu tout un groupement de travailleurs. Moi, j'ai travaillé sur ce lieu-là, dans le Cantal, au barrage de l'Aigle, où il y a eu tout un village espagnol de compagnies de travailleurs qui étaient là-bas. Et donc, parce que j'ai rencontré un ancien interné qui a vécu ça, qui était au barrage de l'Aigle, et lui disait qu'en fait, la direction du barrage était dans la résistance, était membre de la résistance française. Et quand les Allemands sont arrivés, en disant on a besoin de main d'œuvre, donc on va sûrement réquisitionner les Espagnols, il y a eu toute une création en fait de trois groupes de maquisards espagnols, de guerrilleros, qui y compris le maquis pour ne pas avoir à être déporté en STO en Allemagne. Et du coup il y a eu quand même beaucoup de pareil en Ariège. Moi j'ai travaillé essentiellement sur le maquis du barrage de l'Aigle parce que c'était le témoin que j'avais rencontré, mais il y a eu beaucoup de villes qui ont été libérées par des Espagnols en Ariège. Donc eux, ils ont énormément... C'est vrai que parmi ceux qui sont restés en France et qui travaillaient dans les compagnies de travailleurs ou même qui travaillaient à titre individuel, parce qu'il y a aussi pas mal d'embauches individuelles dans des fermes agricoles ou même dans des usines. Et du coup, il y a quand même eu pas mal de volonté de rejoindre la résistance. Et notamment, je pense que l'idée... La principale, c'était que si on aide les Français et les Alliés à bouter Hitler, à faire en sorte que Hitler ne soit plus nuisible, ils vont nous aider par la suite à renverser Franco. C'est quand même un peu le... Tu vois, ils ont tous espéré ça. Tous espéré ça. Et je pense que c'était une des raisons pour lesquelles... Et puis je pense que c'était un engagement politique global, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais battus contre Franco, ils se sont surtout battus contre le fascisme, très clairement, et c'était le même combat pour eux. Donc ils ont eu cette force-là d'oublier ce que la France leur a fait vivre pendant plusieurs mois dans des camps, en les accueillant comme des mères, en leur disant « mais vos galons que vous avez acquis pendant les révolutions, c'est rien », alors que les Espagnols leur disaient « mais rigolez, mais dans un an c'est votre tour ». Enfin, ils étaient extrêmement visionnaires, et voilà, je pense qu'ils ont eu un sens. De toute façon, eux ont bien vu qu'ils s'étaient fait bombarder pas que des Espagnols, parce qu'il y avait des nazis, qu'il y avait des Italiens, et ils ont bien senti que ça allait arriver. Donc je pense que voilà, la France là-dessus l'a vu ou pas, elle s'est préparée ou pas, ça c'est des questions stratégiques, je sais pas, mais toujours est-il que les Espagnols, voilà, c'était un combat, c'était la suite d'un combat, et ils se sont engagés, c'était des valeurs humanistes, quoi, et c'est en ça que c'est je pense que c'est un très beau combat, quoi. Mais à la suite, par la suite, voilà, leur exode s'est transformé en exil parce que il n'y a rien eu de fait, quoi. Il n'y a rien eu de fait. Mmh.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle justement avec les centres de rétention ?
Moi, je pense. Franchement, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est politiquement correct, encore une fois, mais non, franchement, je ne vois pas ce qui diffère. Bon, ben, les périodes sont différentes, très clairement, mais là, concrètement, aujourd'hui, voilà, on expulse des étrangers qui, a priori, n'auraient pas leur place en France économiquement, qui n'auraient pas le droit de vivre ici. Pour quelles raisons ? Il n'y en a aucune au niveau... Au niveau humain de données, il n'y a aucune raison. Et c'était pareil pour les Espagnols, quoi. C'est-à-dire que les Espagnols, ils ont été internés sur une décision administrative qui n'était pas une décision de justice. Ils n'avaient rien à se reprocher dans le droit. Ces Espagnols n'avaient pas de raison, aucune raison légale de se faire interner. Ça a été une décision administrative, un décret qui a été pris pour protéger une population, pour protéger une économie, pour protéger... Voilà, pour protéger la France de cette vague rouge, mais il n'y avait pas de socle légal à ça. Et autant là, maintenant, on crée des lois pour expulser les gens, la question n'est pas là, mais c'est pareil, ils ont créé un décret pour interner les gens. Mais je pense que c'est la même dimension. C'est-à-dire qu'en plus, on les oblige à passer par ces espèces de lieux de privation totale, de liberté et au final d'identité, parce que c'est ce que racontent tous les internés du Vernet ou tous les témoignages, c'est-à-dire, et que Costler décrit très bien, même si c'est quelques mois après, c'est les mêmes conditions mentales en tout cas, c'est-à-dire de plus avoir d'intimité, de plus avoir de lieu à soi, de plus avoir de possibilité de réfléchir, et c'est cette... Il n'y a pas eu d'études de fait, et il n'y a pas de documents, je pense, qui permettent ça, mais qui créent des situations mentales et psychiques complètement dramatiques, et... Il y avait plein, notamment sur les plages, hein, sur Argelès, le Barcarès, la Arenitis, c'était la folie du sable, la folie des barbelés, l'internement. Il y avait plein d'internés qui étaient fous, quoi, qui finissaient fous. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on interdit à des gens qui ont tout quitté dans leur pays pour venir s'installer en France de vivre une vie décente. On leur interdit ça, et en plus, on les enferme dans des lieux dont on connaît tout à fait, je veux dire, je ne vais pas refaire Vincennes, hein, mais donc on connaît tout à fait le... La dégradation, enfin, je veux dire, c'est pour moi, c'est du même domaine, quoi. Mm-hmm. C'est une négation d'identité, quoi. C'était des hommes politisés, on leur a interdit le droit de séjour en France, et là, c'est pareil, c'est des étrangers, on leur interdit pour quel motif ? Moi, j'en vois aucun. Hein. Après, c'est personnel, mais
mm-hmm. Pour en revenir à cette absurdité, on va dire, de l'internement des républicains, je pense à dans le film de Jean Ortiz, là, Espejo Rojo, donc le personnage qu'il rencontre, lui, il dit quelle déception. Enfin, on pensait que la France, elle était antifasciste et derrière nous, et pomme, on se retrouve. En plus, il se retrouve sur la plage sans rien avant de se retrouver en camp.
Bah c'est surtout, je pense qu'en plus, ils s'y attendaient pas du tout. C'est-à-dire que bon, ils ont bien compris que la France n'était pas intervenue. Hein, la non-intervention de Blum. Ça, c'est clair, c'était militaire, mais de là à ce qu'on les considère comme des criminels, en fait, ils s'y attendaient pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai interrogé donc deux Espagnols qui ont encore beaucoup de mémoire et qui ont une mémoire très vive de cette période d'internement, qui sont passés par le Vernet, dont un qui me disait, nous, on était persuadés qu'on allait se faire nourrir, laver, et qu'on allait nous réarmer pour nous renvoyer en Espagne. Ils attendaient que ça, de retourner au combat. Et en l'occurrence, ils se sont traités comme de la merde, et... Et voilà, et ils s'attendaient pas du tout à ça, parce que la France était quand même une république, et eux se combattaient pour les idéaux de la république, je pense, c'est surtout ça qui a posé problème. Et puis Daladier, voilà, c'était la suite du Front Populaire, et il y avait encore cette idée de Front Populaire, en l'occurrence on sait très bien que Daladier au final a tué un peu cette notion, mais toujours est-il qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, quoi. Pas du tout à ça, je pense que ça a été très très dur, surtout qu'en plus... À ça, tu rajoutes le fait qu'on leur, que d'une part, ils parlent pas la même langue et qu'il y a eu aucun effort de traduction, donc on savait pas du tout. Ils sont arrivés, enfin, notamment sur les plages d'Argelès, enfin les plages du Roussillon où ils sont arrivés, il y avait des kilomètres et des kilomètres de gens, il y avait rien, il y avait pas de baraquement, il y avait du sable, il faisait froid, au Vernet il neigeait et t'as rien et t'as pas d'explication et t'as pas à bouffer. Tu te dis, tu sais même pas combien de temps ça va durer, c'est-à-dire que t'as aucune notion de temps. Ça doit être ultra angoissant. Enfin c'est Tu rajoutes à ça le manque de soins, au début les conditions hygiéniques complètement défavorables, je veux dire, il y a de quoi devenir fou, quoi, en effet. Et moi, enfin, ce qui, moi, ça renforce d'autant plus, je trouve, leur grandeur à avoir accepté de s'engager auprès de la France. Enfin, c'est dépassé complètement la notion de pays, en fait, de ceux qui t'ont accueilli. C'est vraiment un combat qui était européen, enfin, qui était mondial, quoi. Vraiment un combat. Politique antifasciste internationale et eux ils se déterminent souvent comme des combattants de la liberté. C'est vrai que c'est un terme moi qui revenait souvent dans les entretiens et c'est ça quoi, c'est une notion qui a pas de frontières quoi. Enfin notamment toi c'était quand même en 2 ans et demi de combat, ils se sont un peu aguerris. Puis même politiquement, tu vois, je pense que pour beaucoup, ça a été le début d'un éveil politique, d'une conscience politique. Et c'était notamment chez les anarchistes, il y avait quand même tu vois, ce refus des frontières, cette volonté de s'ouvrir au monde. Et ça, c'est resté ancré. Les Espagnols, là, qui sont en France, c'est des anarches. Tu fais... Et puis en plus, c'est impressionnant comment ils ont gardé ça en eux, c'est-à-dire que tu les interroges, t'as intérêt, moi j'ai interrogé que des anarchistes, tu t'as intérêt à faire très attention à ce que tu dis, c'est-à-dire que tu dis « camarade » à la place de « compagnon », tu ne fais plus l'entretien, c'est pas possible. En plus, c'est des plaies qui sont restées tellement vives, parce qu'en plus de toute cette barbarie fasciste internationale, il y a eu toutes les complications politiques internes qui a fait dire à plein de monde que c'était une guerre civile, que ça n'était pas au final, mais qui a compliqué tout ça. Et ils ont gardé ça, tout comme l'internement, ces difficultés-là, encore, c'est encore extrêmement vivace en eux, quoi. Mmh. J'ai un ami à Paris qui... et je trouve que cette histoire, elle montre bien ça. Un ami à Paris qui avait sa grand-mère adoptive, en fait, qui a fait partie, qui était une des rares femmes qui a commandé une colonne du Poum, en fait. Et à son enterrement, à Paris, au Père-Lachaise, à côté, il y avait un communiste qui se faisait enterrer. Et les Espagnols, qui étaient à l'enterrement, ils se sont foutus sur la gueule. Pendant l'enterrement, entre Coco et Trotskiste, à 90 ans, quoi. Ils avaient tous 90 ans, et ils se sont foutus tous sur la gueule, en disant « c'est à cause de vous qu'on a perdu la guerre et tout ». Et c'est incroyable, à 90 balais, quoi. Et ils cicatriseront pas, quoi. Et entre eux, et aussi, surtout, hein, après en vouloir à la France, je sais pas, parce que ils disent « non, nous, on n'en veut pas à la France ». Moi, je suis mariée à une Française. En plus, les deux Espagnols que j'ai beaucoup interrogés sont mariés ou ont été mariés à des Françaises. Et moi, j'en veux pas à ma France. À la France, mes enfants, ils ont été à l'école. Je vis bien. Là, je suis bien en France. J'en veux au gouvernement de l'époque qui a rien compris, qui nous a enfermés comme des chiens. Et je trouve qu'ils ont une analyse politique qui est vachement d'actualité, quoi. Ils sont assez impressionnants.
Donc là, tes recherches vont s'orienter vers où exactement ?
Et ben là, du coup, après avoir travaillé sur le Vernet, j'ai hésité en fait à travailler sur l'histoire du Vernet, donc dans sa globalité. Mais j'avais un peu envie de changer aussi, enfin changer et non. Disons que je me suis interrogée en fait dans tout ce que j'ai pu lire ou avoir la possibilité de voir en archive, j'ai trouvé qu'on ne parlait pas beaucoup des femmes qui ont vécu cet exil, alors que parce qu'elles n'ont pas été internées dans des grands camps où il y avait 10 000 personnes, où forcément, dans ces cas-là, les archives, c'est plus facile de les consulter. Elles ont été complètement divisées dans plein de lieux, envoyées dans plein de lieux différents. Et je pense qu'elles ont pourtant une place, enfin, elles étaient aussi nombreuses que les hommes à s'exiler. Et donc là, je m'intéresse pas mal justement à la question de savoir comment elles ont vécu l'exil, comment elles l'ont dépassé, comment elles sont intégrées ou pas, comment elles ont repris une lutte, comment elles ont digéré ce qu'elles avaient vécu pendant la guerre d'Espagne, les avancées qu'il y avait pu y avoir socialement, au niveau du féminisme. Donc la question, c'est de savoir comment elles ont vécu l'exil, comment elles ont été accueillies en tant que femmes, et puis comment... En tant que femme, justement, elles ont dépassé l'internement, comment elles ont vécu tout ça, et s'interroger un peu là-dessus. Et puis même au niveau de la résistance, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Espagnols, des républicains espagnols qui sont engagés dans la résistance, mais il y a toute la question de la résistance, même si elle est considérée comme passive, entre guillemets, et elle ne l'est pas tout le temps, déjà, mais la question de savoir la place des femmes dans cette résistance. Et je pense qu'elle est... Elle est hyper intéressante, notamment. Enfin, moi, je sais que j'avais eu l'idée de travailler là-dessus en interrogeant une républicaine espagnole qui a passé la frontière à 14 ans. En fait, son père était interné au Vernet. C'était à ce propos-là que je la voyais, et elle me disait que donc son père était un grand ami de Ricardo Sanz, qui était le responsable de la division d'Urruti, interné donc. Et elle disait cette dame-là, elle me dit, mais moi j'allais voir mon père, et puis bah du coup Ricardo Sanz il me donnait des papiers, donc c'est vrai que moi je les sortais du camp et tout, mais enfin moi j'ai rien fait, hein, de toute façon j'ai rien fait pour ça. Et tu te rends compte qu'en fait elle a participé à la recréation de tout mouvement anarchiste en exil avec l'air de rien, tu vois, alors que ces femmes-là, elles étaient hyper importantes, je pense, et elles ont vécu des choses qui ont tout autant leur place que les hommes dans l'exil, parce que il y a pas de raison, c'est ça. Donc c'était un peu l'idée de partir là-dessus. Donc je sais pas, les archives sont un peu plus muettes par rapport aux femmes, mais je pense qu'il y a des choses à trouver, et notamment pas mal encore d'Espagnols à interroger. Donc ça va être pas mal d'histoire orale, je pense.
Bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dès que tu auras plus d'éléments. Voilà, vous êtes bien toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on était en compagnie de Maëlle Maugendre qui nous parlait donc de son travail d'histoire en maîtrise de l'exode à l'exil, l'internement des républicains espagnols au camp du Vernet d'Ariège de février à septembre 1939. Eh bien, l'émission se termine. Et voilà, vous pourrez retrouver cette émission ainsi que d'autres qu'on a fait autour de la question de la guerre d'Espagne, à la fois aussi surtout sur la mémoire, notamment l'année dernière, il y a presque un an, en mai 2009, vous retrouverez aussi une émission sur la mémoire de la guerre d'Espagne sur notre site www.loldf.org.
Et sur le même site, loldf.org, si vous fouillez bien dans les années qui précèdent, on a aussi, je crois, deux émissions sur l'histoire de l'immigration espagnole avec Natacha Lillo, qui montre comment les vagues d'immigration en France, entre l'immigration économique des années 20, l'immigration politique des années 30, puis la vague à nouveau d'immigration économique des années 50-60, sont des histoires mêlées, complémentaires, avec des processus d'intégration entre guillemets relativement différents, évidemment, en fonction et des périodes et des raisons de la migration. Tout ça, c'est sur le site loldf.org.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. Et puisque c'est fini ce soir, nous irons danser sans chemise et sans pantalon, puisque c'est interdit pour nos camarades. Ce soir, on retrouvait donc autour des micros, autour des boutons, les suffragettes de la Radio Libre avec Juliette, Audé et Alexandrine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. Et d'ici là, on vous abandonne dans les bras de Claudie et Claudia, puisque Antanan arrive. Et puisqu'une fois nous ne terminons pas en retard, vous allez pouvoir écouter en entier notre merveilleux générique. C'est un album qui s'appelle Black Nuts. C'est Rachan Roland Kirk. C'est publié à la fin des années 70. C'était un album absolument génial, très moqueur sur le disco et la funk de l'époque, où il en reprend toute une série des grands tubes avec sa formation très free jazz. Allez, on écoute ça jusqu'au bout pour une fois. Ciao. We'll be right back.